Chapitre 1. Résurrection. On emploie des esclaves dans les états qu'elles cèdent. Ils fournissent la main-d'œuvre pour les tâches pénibles. Ils sont mineurs, souffleurs de forge, rameurs à bord des galères, éboueurs, ouvriers dans les champs, et putains. Curieusement, ils sont aussi bonnes d'enfants, précepteurs, cuisiniers, scribes et artisans qualifiés. Tout entière, la brillante civilisation de Chalcède, depuis les immenses bibliothèques de Djep jusqu'aux fontaines et aux thermes fabuleux de Sinjon, repose sur l'existence d'une classe d'esclaves. Les marchands de Terrilville constituent la principale source d'approvisionnement en esclaves. Autrefois, la plupart étaient des prisonniers de guerre, et Chalcède soutient officiellement que c'est encore le cas. Cependant, au cours des dernières décennies, il ne s'est pas produit de guerre suffisamment importante pour répondre à la demande d'esclaves instruits. Les marchands de Terrilville sont très habiles à découvrir d'autres sources ou puiser, et lorsqu'on aborde ce sujet, on mentionne souvent la piraterie qui sévit dans les îles marchandes. Les propriétaires d'esclaves des États Chalcède ne font guère preuve de curiosité quant à la provenance de leur main-d'œuvre du moment qu'elle est en bonne santé. La coutume de l'esclavage n'a jamais pris dans les six duchés. Un homme condamné pour un délit peut être obligé de se mettre au service de celui à qui il a fait du tort, mais une limite de temps est toujours fixée, et son statut n'est jamais moindre que celui d'un homme qui répare sa faute. Si le crime est trop odieux pour être racheté par le travail, le condamné le paye de sa vie. Nul ne devient jamais esclave dans les six duchés, et nos lois n'acceptent pas l'idée qu'une maisonnée puisse faire entrer des esclaves dans le royaume et les maintiennent dans cet état. Pour cette raison, de nombreux esclaves Chalcède qui acquièrent la liberté d'une façon ou d'une autre cherchent souvent dans les six duchés une nouvelle patrie. Ces esclaves apportent avec eux les coutumes et le savoir traditionnel de leur pays d'origine. Un conte m'est ainsi parvenu. Il traite d'une jeune fille qui était « vechi », c'est-à-dire « douée du vif ». Elle souhaitait quitter la maison de ses parents pour suivre l'homme qu'elle aimait et devenir sa femme. Ses parents le jugeaient indigne et interdirent à leur fille de se marier avec lui. Enfant trop respectueuse pour leur désobéir, elle était aussi femme trop ardente pour vivre sans son bien-aimé. Elle s'allongea sur son lit et mourut de chagrin. Ses parents, accablés, l'enterrèrent et se reprochèrent fort de ne lui avoir point permis de suivre son cœur. Mais, à leur insu, elle s'était liée à une ours par le vif, et quand elle mourut, l'ours accueillit son esprit, afin qu'il ne s'échappe pas du monde. Trois nuits après l'ensevelissement, la bête creusa dans la tombe et rendit l'esprit de la jeune fille à son corps. Sa résurrection fit d'elle une femme nouvelle qui ne devait plus rien à ses parents. Aussi quitta-t-elle le cercueil fracassé pour se mettre à la recherche de son bien-aimé. Le conte s'achève tristement car, ayant été ours, elle ne fut plus jamais complètement humaine, et son bien-aimé ne voulut pas d'elle. C'est sur cette histoire que Burick fondait sa décision de me libérer des geôles de royal en m'empoisonnant. La pièce était trop chaude et trop petite. Haleter ne me rafraîchissait plus. Je quittai la table et m'approchai de la barrique d'eau dans le coin. J'enlevai le couvercle et bus à longs traits. Cœur de la Meute leva les yeux avec un presque grondement.
« Serre-toi d'une timbale, Fitz !»
L'eau me dégoulinait du menton. Je le regardais à mon tour.
« Essuie-toi la figure !»
Cœur de la Meute baissa le regard sur ses mains. Il y avait de la graisse dessus, et il en frottait des lanières. Je reniflais l'odeur, puis me passai la langue sur les lèvres.
« J'ai faim !» dis-je. « Assieds-toi !» et termine ton travail. Ensuite, nous mangerons. »
J'essayais de me rappeler ce qu'il attendait de moi. De la main, il indiqua la table, et je me souvins. Il y avait d'autres lanières de cuir de mon côté de la table. Je me rassis sur la chaise dure.
« J'ai faim maintenant, » dis-je.
Encore une fois, il me regarda d'une façon qui était comme un grondement. Cœur de la Meute était capable de gronder avec ses yeux. Je soupirai. La graisse qu'il utilisait sentait très bon. J'avalais ma salive, puis je baissais les yeux. Il y avait des lanières et des bouts de métal devant moi sur la table. Je restais un moment à les contempler. Cœur de la meute finit par poser ses sangles et s'essuya les mains sur un chiffon. Il vint auprès de moi et je dus me tourner pour le voir.
« Là, » dit-il en montrant le cuir devant moi, « c'est là que tu le réparais. »
Il attendit que je prenne la lanière. Je me penchai pour la renifler et il me tapa sur l'épaule.
« Ne fais pas ça. »
Ma lèvre se retroussa, mais je ne grondais pas. Gronder le mettait très en colère. Je restai un moment les lanières dans les mains, puis j'eus l'impression que mes doigts se souvenaient avant mon esprit, et je les regardais travailler le cuir. Quand j'eus fini, je lui montrai la lanière et tirai dessus, fort, pour lui prouver qu'elle tiendrait même si le cheval rejetait la tête en arrière.
« Mais il n'y a plus de chevaux, » fis-je tout haut.
Je venais de me le rappeler. Tous les chevaux sont partis.
Frère !
J'arrive. Je me levai, me dirigeai vers la porte.
Reviens t'asseoir,
dit Cœur de la Meute.
Œil de Nuit m'attend, répondis-je. Puis il me revint qu'il ne pouvait pas m'entendre. Je l'en pensais capable s'il voulait s'en donner la peine, mais il ne voulait pas. Je savais que si je m'adressais à lui ainsi, il me pousserait. Il ne me laisserait guère parler à Œil de Nuit de cette façon. Il poussait même Œil de Nuit quand le loup me parlait trop. C'était très étrange.
« Œil de Nuit m'attend, » lui dis-je avec ma bouche.
« Je sais. C'est le bon moment pour chasser. Il est encore meilleur pour rester ici. J'ai à manger.
Œil de Nuit et moi pourrions trouver de la viande fraîche. J'en salivais d'avance. Un lapin éventré, encore fumant dans la nuit d'hiver. Voilà ce qui me faisait envie.
« Œil de Nuit devra chasser seul cette nuit, » répondit Cœur de la Meute.
Il s'approcha de la fenêtre et entr'ouvrit les volets. Un courant d'air glacé entra. Je sentis l'odeur d'Œil de Nuit, et plus loin, celle d'un chat des neiges. Œil de Nuit gémit.
« Va-t'en, » lui dit Cœur de la Meute. « Allons, va chasser, va te nourrir. Je n'ai pas assez à manger pour toi. »
Œil de Nuit s'écarta de la lumière qui tombait de la fenêtre, mais il n'alla pas trop loin. Il m'attendait, mais je savais qu'il ne pourrait pas attendre longtemps. Comme moi, il avait faim. Cœur de la Meute se rendit auprès du feu qui rendait la pièce trop chaude. Une marmite était posée à côté. Il la tira vers lui, avec le tisonnier, et ôta le couvercle. De la vapeur s'éleva, accompagnée d'odeurs, grains de blé, racines, et un tout petit parfum de viande, presque effacé par la cuisson. J'avais si faim que je reniflais pour mieux le percevoir. Je commençais à gémir, mais Cœur de la Meute me fit à nouveau son grondement d'œil. Je retournai sur la chaise dure et j'attendis. Il lui fallut très longtemps. Il enleva toutes les lanières de la table et les pendit à un crochet. Puis, il rangea le pot de graisse. Puis, il apporta la marmite bouillante sur la table. Puis, il sortit deux bols et deux gobelets. Il versa de l'eau dans les gobelets. Il sortit un couteau et deux cuillères. Dans le buffet, il prit du pain et un petit pot de confiture. Il remplit de ragoût le bol posé devant moi, mais je savais que je n'avais pas le droit d'y toucher. Je ne devais pas manger tant qu'il n'avait pas coupé le pain pour m'en donner un morceau. J'avais le droit de tenir le pain, mais pas de le manger tant qu'il n'était pas assis, avec son assiette, son ragoût et son pain.
« Prends ta cuillère, »
me rappela-t-il. Puis il s'assit lentement sur sa chaise, juste à côté de moi. Le pain et la cuillère à la main, j'attendis, et j'attendis encore. Je ne le quittais pas des yeux, mais je ne pouvais m'empêcher de mâcher dans le vide. Cela le mit en colère. Je refermai la bouche. «
Enfin, nous allons manger, » dit-il.
Mais l'attente n'était pas terminée. J'avais le droit de prendre une bouchée à la fois. Je devais la mâcher et l'avaler avant d'en prendre une autre, sans quoi il me donnait une taloche. Je ne pouvais prendre de ragoût que ce que contenait la cuillère. Je saisis le gobelet et bus. Il me sourit.
« Bien, Fitz. C'est bien. »
Je lui rendis son sourire,
mais je mordis alors trop largement dans le pain, et il fronça les sourcils. Je m'efforçais de mâcher lentement, mais j'avais trop faim maintenant, et la nourriture était là, et je ne comprenais pas pourquoi il m'empêchait de manger. Il me fallut longtemps pour terminer. Il avait fait exprès de servir le ragoût trop chaud pour que je me brûle la langue si je prenais de trop grosses bouchées. Je ruminais un moment cette idée, puis « Tu as fait exprès de servir la nourriture trop chaude pour que je me brûle si je mange trop vite. » Un sourire apparut lentement sur son visage. Il hocha la tête. Je finis quand même de manger avant lui. Je dus rester sur ma chaise en attendant qu'il ait terminé, lui aussi.
« Alors, Fitz, » dit-il enfin. « La journée n'a pas été trop mauvaise, hein, mon garçon ?»
Je le regardais.
« Réponds quelque chose, » fit-il.
« Quoi ? » demandai-je.
« N'importe quoi. »«
N'importe quoi. » Il fronça les sourcils, et j'eus envie de gronder, parce que j'avais fait ce qu'il m'avait dit de faire. Au bout d'un moment, il se leva et alla chercher une bouteille. Il versa quelque chose dans son gobelet, puis il me tendit la bouteille.
« Tu en veux ?»
Je me reculai, rien que l'odeur me piquait le nez.
« Réponds. »«
Non, non, c'est de la mauvaise eau. »«
Non, c'est de la mauvaise eau de vie, de l'eau de vie de mur qui ne vaut rien. Je détestais ça, mais toi, tu aimais bien. »
Je soufflais par le nez pour me débarrasser de l'odeur. « Nous n'avons jamais aimé ça. » Il posa la bouteille et le gobelet sur la table, se leva et alla ouvrir la fenêtre.
« Va chasser, j'ai dit. »
Je sentis Œil de Nuit faire un bond, puis s'enfuir. Œil de Nuit a peur de Cœur de la Meute, autant que moi. Une fois, j'ai attaqué Cœur de la Meute. J'étais resté longtemps malade, mais j'allais mieux. Je voulais sortir chasser, et il refusait. Il était devant la porte, et j'ai sauté sur lui. Il m'a frappé avec son poing, puis il m'a tenu couché par terre. Il n'est pas plus grand que moi, mais il est plus méchant et plus rusé. Il connaît beaucoup de façons d'empêcher de bouger, et la plupart font mal. Il m'a longtemps tenu par terre, sur le dos, la gorge découverte, offerte à ses crocs. Chaque fois que je remuais, il me tapait. Œil de Nuit a grondé dehors, mais pas trop près de la porte, et il n'a pas essayé d'entrer. Quand j'ai gémi pour demander grâce, il m'a encore tapé.
« Tais-toi »
a-t-il dit. Quand je me suis tu, il a repris.
« Tu es jeune. Je suis plus vieux, et j'en sais plus que toi. Je me bats mieux que toi, je chasse mieux que toi. Je suis au-dessus de toi. Tu feras tout ce que je voudrais. Tu feras tout ce que je te dirai. Tu as compris ?»«
Oui, » lui ai-je répondu. « Oui, oui, c'est l'esprit de la meute. Je comprends, je comprends. » Mais il m'a encore tapé, et il a continué à me tenir, la gorge offerte, jusqu'à ce que je lui dise avec ma bouche. « Oui, je comprends. » Revenu à la table, Cœur de la Meute versa de l'eau de vie dans mon gobelet. Il le posa devant moi, là où j'étais obligé de sentir l'odeur. Je reniflais.
« Essaye, » fit-il. « Rien qu'un peu. Tu aimais ça avant. Tu en buvais en ville, quand tu étais plus jeune, et que tu ne devais pas entrer sans moi dans les tavernes. Ensuite, tu mâchais de la menthe en croyant que je ne remarquerais rien. »
Je secouai la tête. « Je n'aurais pas fait ce que tu m'avais interdit. J'ai compris. » Il fit le bruit qui ressemble à éternuer et s'étrangler.
« Oh, tu faisais très souvent ce que je t'avais interdit de faire, très souvent. »
Je secouai encore la tête. « Je ne m'en souviens pas. »«
Pas encore, mais ça viendra. »
Du doigt, il désigna mon gobelet.
« Vas-y, goûte, juste un peu. Ça te fera peut-être du bien. »
Et parce qu'il l'avait ordonné, je goûtais. L'eau me piqua la bouche et le nez, et je n'arrivais pas à me débarrasser du goût en soufflant par le nez. Je renversais ce qui restait dans le gobelet.
« Eh bien, patience serait contente. »
Il n'ajouta rien. Il me fit prendre un chiffon pour essuyer ce que j'avais renversé. Puis il me fit faire la vaisselle dans l'eau, et je dus la sécher, en plus. Parfois, Je me mettais à trembler et je tombais sans raison. Cœur de la meute essayait de m'empêcher de bouger. Parfois, les tremblements me faisaient m'endormir. Quand je me réveillais, j'avais mal. J'avais mal à la poitrine, mal au dos. Parfois, je me mordais la langue. Je n'aimais pas ces moments-là. Ils faisaient peur à œil de nuit. Et parfois, il y avait quelqu'un d'autre avec œil de nuit, et moi, quelqu'un qui pensait avec nous. Il était très petit, mais il était là. Je ne voulais pas qu'il soit là. Je ne voulais personne. Plus jamais, personne d'autre qu'œil de nuit et moi. Il le savait, et il se faisait si petit que la plupart du temps, il n'était pas là. Plus tard, un homme vint. Un homme vient, dis-je à cœur de la meute. Il faisait sombre et le feu baissait. Le bon moment était passé pour la chasse. La nuit était là. Bientôt, elle nous ferait dormir. Sans répondre, il se leva vivement mais sans bruit et prit le grand couteau qui était toujours sur la table. Il me fit signe de me mettre dans le coin, hors de son chemin. Il s'approcha doucement de la porte et tendit l'oreille. Dehors, j'entendais l'homme marcher dans la neige. Puis, je sentis son odeur. « C'est le gris, » dis-je, « humbre. » Alors, il ouvrit très vite la porte et le gris entra. Les odeurs qui l'accompagnaient me firent éternuer. Il sentait toujours la poudre de feuilles sèches et plusieurs sortes de fumées. Il était maigre et vieux, mais cœur de la meute se conduisait toujours comme s'il était plus haut dans la meute. Cœur de la meute ajouta du bois sur le feu. La pièce devint plus lumineuse et plus chaude. Le gris repoussa son capuchon en arrière. Il me regarda un moment avec ses yeux clairs, comme s'il attendait quelque chose. Ensuite, il parla à cœur de la meute.
« Comment est-il? Mieux ?»
Cœur de la meute fit bouger ses épaules.
« Quand il vous a senti, il a prononcé votre nom. Il n'a pas eu de crise de la semaine. » Et il y a 3 jours, il m'a réparé un harnais. C'était du bon travail. Il ne cherche plus à mâcher le cuir. Non, du moins quand je le regarde. Et puis, c'est un ouvrage qu'il connaît par cœur. Ça réveillera peut-être quelque chose en lui. Il eut un rire bref. Si on n'arrive à rien, on peut toujours vendre le harnais.
Le gris s'approcha du feu et tendit les mains vers les flammes. Elles étaient tachées. Cœur de la meute sortit sa bouteille d'eau-de-vie. Ils burent dans des gobelets. Il m'en donna un avec un fond d'eau-de-vie, mais il ne me força pas à le goûter. Ils parlèrent longtemps, longtemps, de choses qui n'avaient rien à voir avec manger, dormir ni chasser. Le gris avait appris quelque chose à propos d'une femme. Elle pouvait être très importante, devenir un point de ralliement pour les duchés. Cœur de la meute dit «
Je ne veux pas en parler devant Fitz. J'en ai fait la promesse. »
Le gris lui demanda s'il pensait que je comprenais, et cœur de la meute répondit que cela ne changeait rien, qu'il avait donné sa parole. J'avais envie de me coucher, mais ils m'obligèrent à rester sans bouger sur une chaise. Quand le vieux dut partir, cœur de la meute dit
« C'est très dangereux de venir ici pour vous. La route est longue. Vous arriverez à rentrer ?»
Le gris sourit.
« J'ai mes méthodes, Burick. »
Je souris aussi en me rappelant qu'il avait toujours été fier de ses secrets. Un jour, cœur de la meute sortit en me laissant seul. Il ne m'attacha pas. Il dit seulement
« Tu as des flocons d'avoine ici. Si tu veux manger pendant mon absence, il faudra que tu te rappelles comment les faire cuire. Si tu sors par la porte ou la fenêtre, ou même si tu ouvres la porte ou la fenêtre, je le saurai et je te battrai à mort. » « Tu as compris ?»«
Oui, » répondis-je. Il avait l'air très en colère contre moi, mais je ne me rappelais pas avoir fait quelque chose qu'il m'avait interdit. Il ouvrit une boîte et y prit des choses, surtout des bouts de métal rond, des pièces. Je me souvenais d'un autre objet. Il était brillant et recourbé comme une lune, et il sentait le sang quand je l'avais eu. Je m'étais battu pour l'avoir. Je ne me rappelais pas en avoir eu envie, mais je m'étais battu et j'avais gagné. Je n'en voulais plus. Il le tint par la chaîne pour l'observer, puis le mit dans une poche. Ça m'était égal qu'il l'emporte. Je commençais à avoir très faim avant son retour. Quand il arriva, il y avait une odeur sur lui, l'odeur d'une femelle, pas forte et mélangée à celle d'une prairie. Mais c'était une bonne odeur, et elle me donna envie de quelque chose qui n'était pas à boire, ni à manger, ni à chasser. Je m'approchai de lui pour le renifler, mais il ne s'en aperçut pas. Il prépara le gruau et nous mangeâmes. Puis il s'assit devant le feu avec l'air très triste. Je me levai et allai chercher la bouteille d'eau-de-vie. Je la lui apportai avec un gobelet. Il prit la bouteille et la timbale, mais ne sourit pas.
« Demain, je t'apprendrai peut-être à rapporter, » me dit-il. « Ça, tu arriveras peut-être à le faire convenablement. » Puis il but toute l'eau de vie de la bouteille et en ouvrit une autre après. Je le regardai. Quand il s'assoupit, je pris son manteau avec l'odeur. Je l'étendis par terre, me couchai dessus et m'endormis en le flairant. Je fis un rêve, mais il n'avait pas de sens. Il y avait une femelle qui sentait comme le manteau de Burick, et je ne voulais pas qu'elle s'en aille. C'était ma femelle, mais quand elle partit, je ne la suivis pas. C'est tout ce que je me rappelais. Ce souvenir, ce n'était pas bon. Comme avoir faim ou soif n'était pas bon. Il m'obligeait à rester enfermé. Il m'obligeait depuis longtemps à rester enfermé, alors que je ne demandais qu'à sortir. Mais cette fois il pleuvait, très fort, si fort que la neige était presque toute fondue. Soudain, je trouvai agréable de ne pas sortir. « Burick, » dis-je, et il se tourna brusquement vers moi. Je crus qu'il allait attaquer tant il avait été vite. J'essayais de ne pas reculer. Cela le mettait en colère quelquefois. « Qu'y a-t-il, Fitz ? » demanda-t-il. Et sa voix était douce. « J'ai faim, » dis-je, « maintenant. » Il me donna un gros morceau de viande. Elle était cuite, mais c'était un gros morceau. Je ne le mangeai pas trop vite, et il me regarda. Mais il ne m'empêcha pas, et il ne me tapa pas. Pas cette fois. Je ne cessais de me gratter le visage, la barbe. Pour finir, j'allais me planter devant Burick, et je me grattais. « Je n'aime pas ça, » lui dis-je. Il eut l'air surpris, mais il me donna de l'eau très chaude, du savon, et un couteau très coupant. Il me donna un morceau de verre rond avec un homme dedans. Je le regardais un long moment. Il me faisait frissonner. Ses yeux étaient comme ceux de Burick, avec du blanc autour, mais encore plus sombres. Ce n'étaient pas des yeux de loup. Sa fourrure était aussi noire que celle de Burick, mais les poils de ses joues poussaient par plaques rêches. Je touchai ma barbe et vis des doigts sur le visage de l'homme. C'était étrange. « Rase-toi, mais fais attention !» fit Burick. J'arrivais presque à me rappeler comment on s'y prenait. L'odeur du savon, l'eau brûlante sur ma figure, mais la lame aiguisée ne cessait de me couper. De petites coupures qui piquaient. Après, j'observais l'homme de la vitre ronde. « Fitz, » pensais-je. Il ressemblait presque à Fitz. Je saignais. « Je saigne de partout, » dis-je à Burick. Il rit. « Tu saignes toujours quand tu t'es rasé. Tu veux toujours aller trop vite. »
Il prit la lame aiguisée.
« Assieds-toi et ne bouge plus. Tu as oublié quelques poils. »
Je restais très immobile et il ne me coupa pas. C'était dur de ne pas bouger alors qu'il s'approchait tellement et me regardait de si près. Quand il eut fini, il me souleva le menton et me dévisagea. Il me dévisagea longuement.
« Fitz, » fit-il.
Il tourna la tête et me sourit. Mais son sourire disparut quand il vit que je ne le lui rendais pas. Il me donna une brosse.
« Il n'y a pas de chevaux à brosser ?» dis-je.
Il parut presque content.
« Brosse-toi ça !»
Et il m'ébouriffa les cheveux. Il m'obligea à les brosser jusqu'à ce qu'ils soient tout plats. Des endroits de ma tête me faisaient mal. Burick fronça les sourcils en me voyant faire la grimace. Il me prit la brosse des mains, me dit de ne pas bouger et regarda ma tête.
« Salaud !»
cracha-t-il durement, et me voyant broncher, il ajouta « Non, pas toi. » Il secoua lentement la tête, et me tapota l'épaule. La douleur va passer avec le temps. Il me montra comment tirer mes cheveux en arrière et les attacher avec une lanière. Ils étaient juste assez longs.
« C'est mieux, » dit-il. « Tu reprends figure humaine. »
Je m'éveillais d'un rêve tout agité et tout gémissant. Je me redressai et me mis à pleurer. Il quitta son lit pour s'approcher.
« Qu'y a-t-il, Fitz? Qu'est-ce qui ne va pas ?»«
Il m'a enlevé à ma mère, » dis-je. « Il m'a emporté. J'étais beaucoup trop jeune pour rester sans elle. »«
je sais, mais c'était il y a longtemps. Tu es ici maintenant et tu ne risques rien. »
Il avait l'air presque effrayé.
« Il a enfumé la tanière, » continuai-je. « Il a pris la peau de ma mère et de mes frères. »
Son visage changea, et sa voix n'était plus gentille.
« Non, Fitz, ça, ce n'était pas ta mère. C'est un rêve de loup, le rêve d'œil de nuit. Ça lui est peut-être arrivé, mais pas à toi. »«
Si, ça m'est arrivé, » répondis-je. Et je fus soudain en colère. « Si, ça m'est arrivé, et j'ai eu aussi mal !» Je me levai et marchai en rond dans la pièce. Je marchai très longtemps, jusqu'à ce que je ne sente plus ce que je sentais. Il resta assis à me regarder. Il but beaucoup d'eau-de-vie pendant que je marchais. Un jour de printemps, je regardais par la fenêtre. Le monde sentait bon le vivant et le nouveau. Je m'étirai. Puis fit rouler mes épaules. J'entendis mes os craquer. « Ce serait une belle matinée pour monter à cheval, » dis-je. Je me tournai vers Burick. Il touillait du gruau dans une bouilloire suspendue au-dessus du feu. Il vint à côté de moi.
« C'est encore l'hiver dans les montagnes, » dit-il doucement. « J'aimerais savoir si Ketriken est bien arrivé chez elle. »
« Sinon, ce n'est pas la faute de Sui. » répondis-je. Soudain, quelque chose bascula et me fit mal au-dedans de moi, si bien que je restai un instant le souffle coupé. Je m'efforçai d'analyser la douleur, mais elle s'enfuit. Je n'avais pas envie de la rattraper, pourtant il faudrait que je la pourchasse, je le savais. Ce serait comme chasser un ours. Quand je serais sur ses talons, elle m'attaquerait et tenterait de me faire du mal. Mais il y avait quelque chose en elle qui me poussait à la suivre. Je pris une profonde inspiration que je relâchai en tremblant. J'en pris une autre, la gorge serrée. À côté de moi, Burick ne bougeait pas, ne disait rien. Il m'attendait. Œil de nuit me lança un avertissement pressant.
« Frère, tu es un loup. Reviens, sauve-toi, ça va te faire du mal. »
Je m'écartai brusquement de lui. Et Burick se mit à faire des bonds dans la pièce, en injuriant les objets, et il laissa le gruau attaché. Il fallut quand même le manger parce qu'il n'y avait rien d'autre. Pendant quelque temps, Burick ne me laissa aucun répit.
« Tu te souviens ? »
répétait-il sans cesse. Il me citait des noms et me demandait de retrouver à qui ils appartenaient. Parfois, cela me revenait un peu. « Une femme, » répondis-je, « au nom de Patience. Une femme dans une pièce pleine de plantes. J'avais fait de mon mieux. » Mais cela ne l'empêcha pas d'être en colère. Quand je dormais la nuit, je faisais des rêves où je voyais une lumière trembler, danser sur un mur de pierre et des yeux à une petite fenêtre. Les rêves me pétrifiaient et me bloquaient le souffle. Si j'arrivais à reprendre assez de respiration pour crier, je parvenais à me réveiller. Parfois, il me fallait longtemps pour inspirer suffisamment. Burick se réveillait lui aussi et il se saisissait du grand couteau posé sur la table.
« Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il ? »
me demandait-il, mais j'étais incapable de lui raconter.
Mieux valait dormir la journée, dehors, dans l'odeur de l'herbe et de la terre.
Les rêves de mur ne me venaient pas alors. Je voyais une femme qui se pressait doucement contre moi. Son parfum était celui des fleurs des prairies, et sa bouche avait le goût du miel. Ces rêves-là me faisaient mal au réveil, quand je me rendais compte qu'elle était partie pour toujours, emmenée par un autre. La nuit, je m'asseyais pour contempler le feu et j'essayais de ne pas penser à des murs de pierre glacée, à des yeux sombres pleins de larmes, ni à une douce bouche emplie de mots amers. Je ne dormais pas. Je n'osais même pas m'allonger, et Burick ne m'y forçait pas. Ambre revint un jour. Il avait la barbe longue et il portait un chapeau à large bord comme un colporteur. Pourtant, je le reconnus quand même. Burick n'était pas là, mais je le laissais entrer. Je ne savais pas pourquoi il venait. « Voulez-vous de l'eau de vie ?» demandai-je, en songeant que c'était peut-être pour cela qu'il était venu. Il m'observa et sourit presque. « Fitz, » dit-il. Il tourna la tête pour me regarder de face. « Eh bien, comment vas-tu ?» Comme je ne connaissais pas la réponse à cette question, je lui rendis simplement son regard. Au bout d'un moment, il mit la bouilloire à chauffer. Il sortit des objets de son sac. Il avait apporté de la tisane épicée, du fromage et du poisson fumé. Il en tira aussi des paquets d'herbes et les posa en rang sur la table. Puis, il prit une poche en cuir. Dedans, il y avait un gros cristal jaune qui lui remplissait toute la paume. Au fond de son sac se trouvait un grand bol peu profond, enduit de vernis bleu à l'intérieur. Il l'avait placé sur la table et rempli d'eau quand Burick revint. Il était allé pêcher. Il avait un fil auquel étaient accrochés 6 poissons. C'étaient des poissons de rivière, pas de mer. Ils étaient glissants et brillants. Il avait déjà enlevé les viscères.
« Vous le laissez seul à présent ?»
demanda Imbre, quand ils se furent salués.
« Bien obligé pour chercher à manger. Vous lui faites donc confiance ?»
Burick détourna le visage.
« J'ai dressé beaucoup d'animaux. Apprendre à une bête à faire ce qu'on lui ordonne, ce n'est pas la même chose que faire confiance à un homme. »
Burick fit cuire le poisson à la poêle et nous mangeâmes. Il eut aussi du fromage et de la tisane. Puis, tandis que je faisais la vaisselle, ils s'installèrent pour parler.
« Je voudrais essayer les herbes, » dit Imbre à Burick. « Sinon, l'eau ou le cristal, quelque chose enfin, n'importe quoi. Je commence à croire qu'il n'est pas vraiment là. »
« Si, » répliqua tranquillement Burick.
« Il faut lui laisser le temps. Je ne pense pas que les herbes lui fassent du bien avant de changer. Il aimait un peu trop ça. Vers la fin, il était toujours malade ou débordant d'énergie. S'il n'était pas plongé dans un abîme de chagrin, il était épuisé d'avoir combattu ou d'avoir donné sa force à Vérité ou à Subtil, et alors il prenait de l'écorce elfique au lieu de se reposer. Il avait oublié comment laisser son corps se remettre tout seul. Il n'avait pas la patience. La dernière nuit, vous lui avez donné de la graine de carie, n'est-ce pas ? Gantelet m'a dit n'avoir jamais rien vu de pareil. À mon avis, davantage de gens se seraient portés à son secours s'il n'avait pas eu si peur de lui. Le pauvre lame a cru qu'il était devenu complètement fou. Il ne s'est jamais pardonné de l'avoir ceinturé. Ah, si seulement il pouvait savoir que le petit n'est pas mort.
Je n'avais pas le temps de faire le difficile. J'ai pris ce que j'avais sous la main. J'ignorais que la graine de carie le rendrait fou furieux.
Vous auriez pu refuser de lui en donner, fit Burick à mi-voix.
Cela n'aurait rien changé. Il aurait fait ce qu'il a fait, mais épuisé, il se serait fait tuer aussitôt.
J'allais m'asseoir sur la pierre d'âtre. Burick ne me regardait pas. Je me couchais sur le côté, puis roulais sur le dos et m'étirais. C'était bon. Je fermais les yeux et savourais la chaleur du feu sur mon flanc.
« Lève-toi et assieds-toi sur le tabouret, Fitz, » dit Burick.
Je soupirai, mais j'obéis. Imbre ne me jeta pas un coup d'œil. Burick se remit à parler.
« Je préfère lui éviter les chocs. Il a besoin de temps pour s'en sortir seul, c'est tout. Des souvenirs lui reviennent parfois, mais il les repousse. » Je crois qu'il n'a pas envie de retrouver la mémoire, Imbre. Il n'a pas envie de redevenir Fitz Chevalerie. Peut-être a-t-il trop apprécié d'être un loup et ne reviendra-t-il jamais.
« Il faut qu'il revienne, » murmura Imbre. « Nous avons besoin de lui. »
Burick se redressa. Il posa par terre ses pieds jusque-là appuyés sur la réserve de bois et se pencha vers Imbre.
« Vous avez reçu des nouvelles ?»«
Pas moi, mais patience, je pense.
il est très frustrant parfois de jouer les rats derrière les murs.
Eh bien, qu'avez-vous entendu ?
Seulement Patience et Brodette qui parlaient de laine.
Et en quoi est-ce important ?
Il leur fallait de la laine pour tisser un linge très doux, destiné à un nourrisson ou un petit enfant. Il va naître à la fin de nos moissons, mais ce sera le début de l'hiver dans les montagnes. Mieux vaut le faire épais, a dit Patience. Il s'agissait peut-être de l'enfant de Kétriken.
Burik parut surpris. Patience est au courant pour Kétriken ?
Ambre éclata de rire.
Je l'ignore. Qui sait de quoi cette femme est au courant ? Elle a beaucoup changé ces derniers temps.
Elle est en train de circonvenir la garde de Castelserre, et le seigneur Brillant n'y voit que du feu. Je songe à présent que nous aurions dû l'informer de notre plan, l'y faire participer depuis le début, mais je me trompe peut-être.
Ça m'aurait peut-être facilité la tâche.
Le regard de Burik était perdu dans la contemplation des flammes.
Ambre secoua la tête.
Je regrette. Elle devait croire que vous aviez abandonné Fitz, que vous le rejetiez à cause du vif. Si vous aviez cherché à récupérer son corps, Royal aurait pu concevoir des soupçons. Il fallait le persuader que Patience était la seule à s'intéresser assez à Fitz pour vouloir l'inhumer.
Elle me hait maintenant.
Elle m'a dit que je n'avais ni fidélité ni courage.
Burik observa ses mains et sa voix se durcit.
Je savais qu'elle avait cessé de m'aimer il y a des années, quand elle a donné son cœur à Chevalerie. Ça, je pouvais l'accepter. C'était un homme digne d'elle, et c'est moi qui l'avais quitté. Je pouvais supporter qu'elle ne m'aime plus, parce qu'elle me respectait en tant qu'homme. Mais aujourd'hui, elle me méprise. Je...
Il hocha la tête, puis ferma les yeux. Un instant, rien ne bougea, puis Burik se redressa lentement, se tourna vers Imbre et demanda d'un ton calme.
« Pour vous, donc, Patience sait que Kétriken s'est sauvé au royaume des montagnes. »
« Je n'en serais pas étonné. Il n'y a pas eu d'annonce officielle, naturellement. Royal a dépêché des messages au roi Iod en demandant à savoir si Kétriken s'y était réfugié. » Mais Iod s'est contenté de répondre qu'elle était reine des six duchés et que ses actes ne regardaient pas les montagnes. Royal en a été si vexé qu'il a rompu tout commerce avec le royaume d'Iod. Mais Patience semble très au courant de ce qui se passe en dehors du château. Peut-être est-elle informée des événements au royaume des montagnes. Pour ma part, j'aimerais beaucoup qu'on m'explique comment elle compte y faire parvenir la couverture. La route est longue et dure.
Burik resta longtemps sans mot dire, puis
« J'aurais dû trouver un moyen pour accompagner Kétriken et le fou, mais il n'y avait que deux chevaux et des vivres pour deux. Je n'avais pas réussi à m'en procurer davantage, et ils sont partis seuls. »
Il observa le feu d'un air furieux.
« J'imagine qu'on n'a pas de nouvelles du roi servant Vérité. »
Imbre secoua lentement la tête.
« Le roi Vérité, » fit-il à mi-voix, reprenant Burik, s'il était ici.
Son regard se fit lointain.
S'il avait rebroussé chemin, il serait déjà ici, murmura-t-il. Encore quelques journées clémentes comme aujourd'hui, et il y aura des pirates rouges dans toutes les baies de la côte. Je pense que Vérité ne reviendra pas.
Alors, Royal et roi pour de bon,
dit Burik d'un ton amer.
En tout cas, jusqu'à ce que l'enfant de Kétriken soit en âge d'accéder au trône. Et à ce moment-là, on peut s'attendre à une guerre civile s'il réclame la couronne, et s'il reste encore un royaume des six duchés à gouverner. Vérité. Je regrette à présent qu'il se soit lancé à la recherche des anciens. Au moins, tant qu'il était vivant, nous étions un peu protégés des pirates. Maintenant qu'il n'est plus là, et que le printemps s'installe, il n'y a plus d'obstacle entre eux et nous.
Vérité. Le froid me fit frissonner. Je le repoussai. Il revint. Je le repoussai et le tins à l'écart. Au bout d'un moment, je pris une grande inspiration.
« Rien que l'eau, alors ?»
demanda Imbre à Burik. Je compris qu'il avait continué à parler, mais que je n'avais pas écouté.
Burik haussa les épaules.
Allez-y. Quel mal cela peut-il faire? Savait-il déchiffrer l'eau avant?
Je ne lui ai jamais demandé d'essayer, mais j'ai toujours eu le sentiment qu'il y arriverait. Il a le vif et l'art. Pourquoi ne saurait-il pas aussi lire l'eau?
Ce n'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on doit le faire.
Ils restèrent un moment à s'entre-regarder. Puis Imbre haussa les épaules.
Peut-être ma profession ne m'autorise-t-elle pas autant de scrupules que la vôtre, fit-il d'un ton guindé.
Burick ne répondit pas tout de suite. Enfin, bourru.
Pardon, messire. Nous avons tous servi notre roi, selon nos possibilités.
Imbre acquiesça de la tête et sourit. Il débarrassa la table de tous les objets sauf du bol d'eau et d'une bougie.
« Viens ici, »
me dit-il d'une voix douce, et je m'approchai. Il me fit asseoir sur une chaise et plaça le bol devant moi.
« Regarde dans l'eau et dis-moi ce que tu vois. »
Je voyais l'eau du bol. Je voyais le fond bleu du bol. Aucune de ses réponses ne le satisfit. Il me répéta de regarder encore, mais je voyais toujours les mêmes choses. Il déplaça la bougie à plusieurs reprises, en me demandant de regarder à chaque fois. Pour finir, il dit à Burick,
« Eh bien, au moins il répond quand on lui parle maintenant. »
Burick hocha la tête, mais il avait l'air découragé.
« Ouais, avec le temps, peut-être. »
Je compris qu'ils en avaient terminé avec moi, et je me détendis. Imbre voulut savoir s'il pouvait passer la nuit chez nous.
« Naturellement. » répondit Burick avant d'aller chercher de l'eau de vie.
Il servit deux gobelets. Imbre attira mon tabouret près de la table et s'assit. Ils se remirent à bavarder, sans plus s'occuper de moi.
« Et moi, alors ?» demandai-je enfin.
Ils s'interrompirent et se tournèrent vers moi.
« Quoi, toi ?» fit Burick.
« Je ne peux pas avoir d'eau de vie ?» Ils me dévisagèrent, et Burick s'enquit d'un ton circonspect.
« Tu en veux ? Je croyais que tu n'aimais pas ça. »
« Non, je n'aime pas ça. Je n'ai jamais aimé ça. » Je réfléchis. « Mais ça ne coûtait pas cher. » Burick écarquilla les yeux. Imbre eut un petit sourire, les yeux baissés sur ses mains, puis Burick alla chercher un autre gobelet et y versa de l'eau de vie. Ils restèrent un moment à m'observer, mais je ne fis rien. Et ils reprirent finalement leur discussion. Je pris une gorgée d'eau-de-vie. Le liquide me piquait toujours la bouche et le nez, mais il déclenchait une chaleur au-dedans de moi. Je n'en voulais plus. Puis, je songeais que si, et je bus encore. C'était toujours aussi désagréable, comme un médicament que patience m'obligeait à boire quand je toussais. Non, je chassais cette pensée aussi, et je posais le gobelet. Burick ne me regarda pas. Il continuait à parler à Imbre.
« Quand on chasse un cerf, on peut souvent s'en approcher bien davantage, simplement en faisant semblant de ne pas le voir. Il reste où il est, à vous surveiller, sans bouger un sabot, tant que vous ne le regardez pas dans les yeux. »
Il saisit la bouteille et me resservit. L'odeur me fit froncer le nez. Il me semblait sentir quelque chose bouger, une pensée dans ma tête. Je tendis mon esprit vers mon loup.
Œil de nuit? Mon frère. Je dors, changeur. Il n'est pas encore temps de chasser.
Burick me foudroya du regard et je cessai. Je n'avais pas envie de reprendre de l'eau de vie. Je le savais, mais quelqu'un d'autre m'y incitait. Quelqu'un me pressait de saisir mon gobelet et de le tenir dans ma main. Je fis tournoyer le liquide dans la timbale. Vérité faisait ainsi avec son vin, tout en le regardant. Je regardais dans le gobelet sombre.
Fitz.
Je reposai le récipient, me levai et me mis à marcher en rond dans la pièce. J'aurais voulu sortir, mais Burick ne me laissait jamais aller dehors seul, surtout pas la nuit. Aussi fis-je plusieurs fois le tour de la pièce avant de me rasseoir sur ma chaise. Le gobelet d'eau-de-vie se trouvait toujours à ma place. Au bout d'un moment, je le repris, rien que pour chasser l'envie de le reprendre. Mais une fois que je l'eus dans la main, l'intrus me fit changer d'envie. Il me fit penser à le boire, à la bonne chaleur du liquide dans mon ventre. Il me suffisait de l'avaler d'un trait, et le goût ne durerait pas, rien que la chaleur agréable dans mon ventre.
Je savais ce qu'il cherchait à faire. Je commençais à me sentir en colère.
« Encore une petite gorgée, alors c'est tout. »
Murmure.
« Pour t'aider à te détendre, Fitz. Le feu est bien chaud, tu as bien mangé. Burick te protégera, et Umbrella aussi. Inutile de rester ainsi sur tes gardes. Rien qu'une gorgée encore, une seule. »
« Non. »
« Une toute petite gorgée, alors, pour t'humecter la bouche. »
J'obéis pour le faire cesser de me donner envie, mais il ne cessa pas, et je pris une autre gorgée. Je m'emplis la bouche et j'avalais. Il devenait de plus en plus dur de résister, il musait, et Burick remplissait toujours mon gobelet.
« Fitz, dit, vérité et vivant, c'est tout, rien que ça. »
« Non.
L'eau de vie ne te fait-elle pas du bien? Elle te fait chaud au ventre. Reprends-en un peu. »
« Je sais ce que vous cherchez. Vous cherchez à m'enivrer pour que je ne puisse plus vous empêcher d'entrer. Je ne vous laisserai pas faire. » J'avais le visage mouillé. Burick et Umbre m'observaient.
« Il n'a jamais eu le vin triste, » fit Burick, « du moins, avec moi. »
Il paraissait trouver la scène très intéressante.
« Dis-le, dis, vérité et vivant. Ensuite, je ne te dérangerai plus. Je te le promets, dis-le rien qu'une fois, même en chuchotant. Dis-le, dis-le. »
Je baissai les yeux sur la table, puis, à voix très basse, « Vérité et vivant. » « Hein ?» fit Burick. Il avait pris un ton trop détaché, et il se pencha trop vite pour remplir mon gobelet. La bouteille était vide. Il transvasa sa timbale dans la mienne. Et soudain, j'eus envie de boire, et cette fois, cette envie était la mienne. Je pris le gobelet et le but d'un trait, puis je me levai. « Vérité est vivant, » répétai-je. « Il a froid, mais il est vivant. Et c'est tout ce que j'ai à dire. » Je me dirigeai vers la porte, défis le verrou et sortis dans la nuit. Burick ne chercha pas à m'arrêter. Burick avait raison. Tout était là, comme un air trop souvent entendu et dont on ne peut plus se débarrasser. C'était sous-jacent à toutes mes pensées, et cela teintait tous mes rêves. Cela revenait sans cesse et ne me laissait pas le moindre répit. Le printemps se changea en été. D'anciens souvenirs commencèrent à recouvrir les nouveaux. Mes vies commencèrent à se recoudre entre elles. Il restait des trous et des faux plis, mais il me devenait de plus en plus difficile de refuser de savoir ce que je savais. Chaque nom retrouvait un sens et un visage. Patience, brodette, célérité, suie, n'étaient plus de simples mots, mais résonnaient désormais des riches harmoniques du souvenir et de l'émotion. « Molly, » dis-je un jour tout haut. Burick leva soudain le regard et faillit lâcher le collet en boyaux finement tressés qu'il fabriquait. Je l'entendis prendre sa respiration, comme s'il s'apprêtait à me parler. Pourtant, il garda le silence et attendit que je poursuive, mais je fermai les yeux, enfouis mon visage dans mes mains et pleurai mon inconscience disparue. Je passai beaucoup de temps devant la fenêtre à contempler la prairie. Il n'y avait rien de spécial à observer, mais Burick ne m'interrompait pas et ne m'obligeait pas à exécuter mes corvées, comme il l'eût fait naguère. Un jour, que je regardais l'herbe grasse, je lui demandais « Qu'allons-nous faire quand les bergers arriveront ici? Où irons-nous vivre ? »
« Serre-toi de ta tête !»
Il avait fixé une peau de lapin au plancher et la raclait pour en ôter la chair et la graisse.
« Ils ne viendront pas. Il n'y a plus de troupeau à mener en pâture d'été. Le meilleur du cheptel est parti pour l'intérieur avec Royal. » Il a vidé Castelserre de tout ce qu'il pouvait emporter. Je te parie que les rares moutons restés à Castelserre ont fini à la broche pendant l'hiver.
Sûrement. Soudain, quelque chose pressa sur mon esprit. Quelque chose de plus terrible que tout ce que je savais et ne voulait pas me rappeler. C'était tout ce que j'ignorais. Toutes les questions demeuraient sans réponse. Je sortis me promener sur la prairie, puis j'allais plus loin. Au bord du ruisseau, que je suivis vers l'aval jusqu'au petit marais où poussaient les massettes.
Je cueillis les épis verts pour les ajouter au gruau. J'avais retrouvé tous les noms des plantes. Sans le vouloir, je savais lesquelles pouvaient tuer un homme et comment les préparer. Toute ma science était là, prête à m'envahir, que je le veuille ou non. Quand je revins avec les épis, Burick faisait cuire l'avoine. Je déposais ma brassée sur la table et puisais une cuvette d'eau à la barrique. Puis, tout en triant les massettes avant de les nettoyer, je lui demandais enfin. « Que s'est-il passé cette nuit-là ?» Il se tourna très lentement vers moi, comme si j'avais été une proie qu'un mouvement brusque risquait d'effaroucher.
« Quelle nuit ?»
Celle où le roi subtil et Ketriken devait s'enfuir. Pourquoi les chevaux et la litière n'étaient-ils pas prêts ?«
Ah, celle-là !»
Il poussa un soupir comme au souvenir d'une vieille douleur. Puis il se mit à parler d'une voix posée. On eût dit qu'il voulait éviter de m'effrayer.
On nous surveillait, Fitz, depuis le début. Royal savait tout. Je n'aurais pas pu faire sortir un grain d'avoine des écuries ce jour-là. Alors 3 chevaux, une litière et un mulet. Il y avait des gardes de bauge partout, qui faisaient semblant d'être descendus inspecter les boxes vides, et je n'ai pas osé aller te prévenir. Alors, pour finir, j'ai attendu que le banquet ait commencé, que Royal se soit couronné et croit avoir gagné pour sortir en douce des écuries, et aller chercher les 2 seuls chevaux disponibles, Sui et Rousseau. Je les avais cachés chez le forgeron pour que Royal ne puisse pas les vendre eux aussi. Pour tout vivre, j'ai pris ce que je trouvais dans la salle des gardes. Je ne voyais pas que faire d'autre.
Et ce sont les seules provisions qu'ont emportées la reine Ketriken et le fou. Leurs noms roulaient étrangement sur ma langue. Je n'avais pas envie de penser à eux, de me les rappeler. La dernière fois que j'avais vu le fou, il m'accusait en pleurant d'avoir assassiné son roi. J'avais insisté pour qu'il s'enfuit à la place du roi afin de sauver sa vie. Ce n'était pas le meilleur souvenir d'adieu à conserver d'un ami.
Oui.
Burick posa le faitout sur la table pour laisser le gruau épaissir.
Imbre et le loup m'ont guidé jusqu'à eux. J'aurais voulu les accompagner, mais c'était impossible. Je n'aurais fait que les ralentir. Ma jambe, je savais que je ne soutiendrais pas longtemps l'allure des chevaux. Et monter à 2, par ce temps, aurait épuisé les bêtes. J'ai dû les laisser partir sans moi.
Il se tut un instant, puis, d'une voix grondante plus grave que celle d'un loup.
« Si jamais je découvre qui nous a vendus à Royal. »«
C'est moi. » Il planta son regard dans le mien, l'horreur et l'incrédulité peintes sur ses traits. Je baissai le nez, mes mains commençaient à trembler. J'ai été stupide. C'est ma faute. La petite servante de la reine Romarin, toujours dans nos jambes. Elle devait espionner pour le comte de Royal. Elle m'a entendu dire à la reine qu'il lui fallait se tenir prête, que le roi l'accompagnerait, qu'elle devait se vêtir chaudement. De là, Royal a dû deviner qu'elle allait s'enfuir de Castelserre, qu'elle aurait par conséquent besoin de chevaux. Et peut-être ne s'est-elle pas contentée d'espionner. Peut-être a-t-elle porté un panier de friandises empoisonnées à une vieille femme. Peut-être a-t-elle appliqué de la graisse sur la marche d'un escalier que sa reine devait bientôt emprunter. Avec un effort, je quittai les épis des yeux pour rencontrer le regard effaré de Burick. Et ce que Romarin n'a pu apprendre, Justin et Sereine l'ont entendu. Ils vampirisaient le roi. Ils le saignaient de sa force d'art, et ils interceptaient la moindre pensée qu'il échangeait avec vérité. Une fois qu'ils ont su que je prêtais ma force au roi, ils se sont mis à m'espionner par l'art, moi aussi. J'ignorais que c'était possible, mais Galen avait trouvé un moyen et l'avait enseigné à ses élèves. Tu te rappelles, Guillot, le fils de Lad, le membre du clan ? C'était le meilleur dans cette discipline. Il pouvait faire croire à ses victimes qu'il n'était pas là, alors qu'il se tenait à côté d'elles. Je secouais la tête en m'efforçant de me débarrasser des terrifiants souvenirs que je gardais de lui et qui faisaient ressurgir les ombres du cachot, tout ce que je renâclais encore à me rappeler. Je me demandais si je l'avais tué. Je ne le pensais pas. Il n'avait sans doute pas avalé assez de poison. Je m'aperçus que Burick me regardait fixement. Cette nuit-là, au dernier moment, le roi a refusé de partir, repris-je à mi-voix. Depuis si longtemps, je ne voyais que le traître en Royal,
et j'avais oublié que Subtil y verrait encore un fils. Quand Royal s'est emparé de la couronne de vérité, alors qu'il savait son frère vivant, le roi Subtil n'a plus voulu vivre, sachant Royal capable d'un tel acte. Il m'a demandé de lui prêter ma force pour artiser un adieu à vérité. Mais Sereine et Justin étaient aux aguets. Je me tus, et de nouvelles pièces du puzzle se mirent en place. J'aurais dû me rendre compte que c'était trop facile. Personne pour garder le roi. Pourquoi? Parce que Royal n'en avait pas besoin. Sereine et Justin étaient collés à Subtil comme des sangsues. Royal en avait fini avec son père. Il s'était couronné roi servant, et Subtil ne pouvait plus lui être d'aucune utilité. Ils ont donc saigné le roi à blanc. Ils l'ont tué, avant même qu'il puisse dire adieu à vérité. Sans doute Royal leur avait-il recommandé de veiller à ce qu'ils n'artissent plus vérité. Alors, j'ai tué Sereine et Justin. Je les ai tués de la même façon qu'ils avaient assassiné mon roi, sans leur laisser l'occasion de se défendre sans la moindre pitié. Calme-toi. Allons, calme-toi. Burik s'approcha vivement de moi, me prit par les épaules et me fit asseoir. Tu trembles, comme si tu allais faire une crise, calme-toi. J'étais incapable de parler. C'est ce qu'Imbre et moi n'arrivions pas à démêler, me dit-il. Qui nous avait trahis? Nous avons pensé à tout le monde, même aux fous. Un moment, nous avons craint d'avoir remis Ketriken entre les mains d'un traître. Comment avez-vous pu croire ça? Le fou aimait le roi Subtil plus que quiconque. Nous ne voyons personne d'autre qui connaissait nos plans, répondit-il simplement. Ce n'est pas le fou qui a provoqué notre perte. C'est moi. C'est à cet instant, je pense, que je redevins complètement moi-même. J'avais dit l'indicible, exprimé la vérité inexprimable. Je les avais tous trahis. Le fou m'avait prévenu. Il avait prédit que je causerais la mort des rois si je n'apprenais pas à cesser de me mêler de tout. Imbre aussi m'avait mis en garde. Il avait tenté de m'arracher la promesse de ne plus modifier les événements, mais j'ai refusé. Et par mes actes, j'ai tué mon roi. Si je ne lui avais pas prêté ma force pour artiser, il ne se serait pas tant exposé aux coups de ses assassins. Je l'ai aidé à s'ouvrir pour contacter vérité, mais ce sont ces deux sangsues qui sont apparues. L'assassin du roi. C'est vrai, de tant et tant de manières subtiles. Je regrette mon roi. Je regrette profondément. Sans moi, Royal n'aurait eu aucun motif de vous tuer. Fitz. Le ton de Burik était ferme. Royal n'avait pas besoin de motif pour tuer son père. Il lui suffisait de ne plus en avoir, de le maintenir en vie. Et ça, tu n'y pouvais rien. Un pli barra soudain son front. Mais pourquoi le tuer juste à ce moment? Pourquoi ne pas avoir attendu de s'être assuré de la reine? Je souris. Tu l'as sauvé. Royal croyait la tenir. Il pensait nous avoir barré la route en t'empêchant de sortir les chevaux des écuries. Il s'est même vanté devant moi, dans ma cellule, qu'elle avait dû partir à pied et sans vêtements contre l'hiver. Burik sourit à son tour, durement. Elle et le fou ont pris les affaires préparées pour Subtil, et ils se sont mis en chemin sur deux des meilleures bêtes qui soient sorties des écuries de Castelserre. Je parie qu'ils sont arrivés sains et saufs dans les montagnes, mon garçon. Sui et Rousseau doivent brouter dans de hautes pâtures en ce moment. Maigre réconfort. Cette nuit-là, j'allais courir avec le loup, et Burik ne me fit aucun reproche. Mais nous ne pouvions courir assez vite, ni assez loin, et le sang versé cette nuit n'était pas celui que je souhaitais voir couler, non plus que la viande tiède ne parvint à combler le vide en moi. Je me remémorais ma vie et la personne que j'avais été. Les jours passant, Burik et moi nous remîmes à nous parler avec franchise, comme des amis, et il renonça à son empire sur moi, tout en exprimant de fins regrets pour me taquiner. Nous retrouvâmes nos habitudes d'antan, nos anciennes façons de rire ensemble et de nous chamailler. Mais notre relation qui s'apaisait et retournait à la normale nous rappelait de manière ô combien aiguë
tout ce que nous avions perdu.
Il n'y avait pas assez à faire dans une journée pour occuper Burick. Je regardais cet homme qui avait eu l'autorité absolue sur les écuries, les chevaux, les chiens et les faucons de Castelserre, s'inventer des tâches pour remplir les heures, et je savais la nostalgie qu'il avait des bêtes autrefois à sa charge. Quant à moi, l'animation et la foule du château me manquaient, mais c'était l'absence de Molly qui me causait la plus vive douleur. J'imaginais les conversations que j'aurais pu avoir avec elle. Je cueillais des reines des prés et des orées du jour parce qu'elle portait son parfum. Et le soir, dans mon lit, je me rappelais le contact de sa main sur ma joue. Mais ce n'était pas de cela que nous parlions. Nous essayions de rassembler nos pièces, en quelque sorte, pour recomposer un tout. Burick pêchait, je chassais. Il fallait gratter les peaux, laver et repriser les chemises, chercher de l'eau au ruisseau. C'était la vie. Une fois, il voulut me raconter le jour où il était venu me voir au cachot pour m'apporter le poison. Ses mains étaient agitées de petits mouvements nerveux, tandis qu'il évoquait le moment où il avait dû s'en aller en me laissant seul dans ma cellule. Je fus incapable de le laisser poursuivre. « Allons pêcher, » proposai-je pour l'interrompre. Il prit une longue inspiration et hocha la tête. Nous nous rendîmes au bord de l'eau, et nous ne parlâmes pas davantage ce jour-là. Cependant, j'avais été mis en cage, affamé et battu à mort, et parfois, quand il me regardait, je savais qu'il envoyait les marques. En me rasant, je contournais la balafre qui courait du haut en bas de ma joue, et j'observais la mèche blanche qui poussait là où le cuir chevelu avait été ouvert. Nous n'y faisions jamais allusion et je refusais d'y penser, mais nul n'aurait pu vivre ce que nous avions vécu sans en être changé. Des rêves commencèrent à me venir la nuit, bref et très net, instant de feu pétrifié, souffrance intense, peur sans espoir. Je m'éveillais alors, les cheveux plaqués par une sueur glacée, l'estomac soulevé de terreur. Rien ne me restait de ces rêves quand je m'asseyais dans le noir, pas le moindre fil qui me permît d'en retrouver le prétexte. Rien que la douleur, l'effroi, la rage, la frustration. Mais surtout la peur accablante qui me laissait tremblant de tous mes membres, suffoquant, les larmes aux yeux, le fond de la gorge baigné de bile amère. La première fois que cela m'arriva, que je me redressai brusquement dans mon lit avec un hurlement, Burick se leva pour me poser la main sur l'épaule en me demandant si tout allait bien, et je l'écartai de moi si violemment qu'il heurta la table et faillit la renverser. La peur et la colère se mêlèrent en moi en un paroxysme de fureur où j'aurais pu le tuer simplement parce qu'il se trouvait à ma portée. À cet instant, je rejetais et méprisais si complètement tout ce que j'étais que je n'eus plus que le désir de détruire tout ce qui était moi. Déchaîné, je repoussais le monde entier, au point de déplacer ou presque ma propre conscience. « Frère, frère, frère !» glapit de nuit éperdu. Et Burick recula en chancelant, avec un cri inarticulé. Au bout d'un moment, je parvins à avaler ma salive et marmonnais. « Un cauchemar, c'est tout. Excuse-moi. J'étais encore dans mon rêve. Ce n'était qu'un cauchemar. » « Je comprends, » dit-il d'un ton brusque, puis plus pensif. « Je comprends. » Et il se remit au lit. Mais ce qu'il comprenait, je le savais, c'était que cette fois il ne pouvait pas m'aider. Les cauchemars ne venaient pas toutes les nuits, mais assez souvent pour faire de mon lit un objet d'angoisse. En ces occasions, Burick faisait semblant de dormir, mais je le sentais éveillé tandis que je livrais seul mes combats nocturnes. De mes rêves, rien ne me restait que l'atroce terreur dont il m'accablait. J'avais souvent connu la peur auparavant. La peur quand j'avais combattu les forgisés, la peur quand nous avions attaqué les guerriers des pirates rouges, la peur quand j'avais affronté Sereine, la peur qui mettait en garde, qui aiguillonnait, qui donnait le mordant nécessaire pour rester en vie. Mais celle de mes nuits était une terreur qui coupait bras et jambes, qui faisait espérer la mort pour y mettre un terme, parce que j'étais brisé et que je me savais prêt à tout avouer pour éviter de nouvelles souffrances. Il n'est pas de réponse à une telle peur, ni à la honte qui s'ensuit. En vain, j'essayais la colère, j'essayais la haine, ni les larmes, ni l'eau de vie ne pouvaient la noyer. Elle s'infiltrait partout en moi, comme une odeur malsaine,
teintait mes souvenirs et assombrissait ma perception de celui que j'avais été. Aucun des instants de joie, de passion ou de courage que je retrouvais dans ma mémoire n'était exactement tel qu'il avait été, car mon esprit ajoutait toujours avec perfidie. Oui, tu as eu cela en un temps, mais ensuite est venu ceci, et ceci est ce que tu es aujourd'hui. Cette peur débilitante rôdait en moi, comme une présence dissimulée, et je savais, avec une conviction affreuse, que réduit aux abois, je me fondrais en elle. Je n'étais plus Fitz Chevalerie, j'étais ce qui restait de lui après que la peur l'eût chassé de son corps. Le deuxième jour après que Burick fut tombé à court d'eau-de-vie, je lui dis « Ça ne me dérange pas de rester seul ici, si tu veux aller à Bourg de Castelserre. »
« Nous n'avons pas d'argent pour acheter d'autres vivres, et plus rien à vendre, » répondit-il d'un ton sec, comme si c'était ma faute.
Il était assis près du feu. Il joignit les mains et les serra entre ses genoux. Je les avais vus trembler, imperceptiblement.
Nous allons devoir nous débrouiller sans rien. Le gibier abonde, et si nous n'arrivons pas à nous remplir le ventre, c'est que nous méritons de mourir de faim.
Tu tiendras le coup ? Demandai-je carrément. Il me regarda, les yeux étrécis.
Ça veut dire quoi, ça ?
Ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau de vie, répondis-je brutalement.
Et tu crois que je ne peux pas m'en passer ?
Je sentais déjà sa colère monter. Il avait de moins en moins de patience depuis que l'alcool manquait. J'eus un petit haussement d'épaule. Je posai la question, c'est tout. Je demeurai sans bouger, sans le regarder, en espérant qu'il n'allait pas exploser. Après un silence, il dit très bas.
« Nous verrons bien. »
Je laissai passer un long moment, puis...
« Qu'allons-nous faire ?»
Il me jeta un regard agacé.
« Je te l'ai déjà dit, chasser pour nous nourrir. Tu es sûrement capable de comprendre ça. »
Je détournai les yeux avec un petit hochement de tête. J'avais compris. Je parlais d'après. Après-demain.
« Eh bien, nous chasserons pour nous procurer de la viande. » Nous devrions tenir quelque temps de cette façon, mais tôt ou tard, nous aurons envie de choses que nous ne pourrons ni chasser ni bricoler. Imbre nous en fournira certaines, si c'est possible. Castelserre est aussi sec qu'un vieil os, à présent. Je devrais me rendre à Bourg de Castelserre pour y louer mes services, mais pour l'instant...
Non, murmurai-je. Je voulais dire, nous ne pouvons pas rester éternellement cachés ici. Qu'allons-nous faire après ? Ce fut son tour de se taire un moment.
À vrai dire, je n'y ai guère réfléchi. Il me fallait d'urgence un abri pour te laisser le temps de guérir, et ensuite, j'ai bien cru que jamais tu ne... Mais je suis revenu, maintenant.
J'hésitais. Patience ?
Elle te croit mort.
Il m'avait coupé peut-être plus sèchement qu'il ne le voulait.
Imbre et moi... Sommes les seuls à savoir la vérité. Avant de te tirer de ton cercueil, nous ignorions à quoi nous attendre. La dose de produit était-elle trop forte? Y avais-tu succombé? Ou encore étais-tu mort de froid au bout de plusieurs jours sous la terre? J'avais vu ce qu'on t'avait fait.
Il s'interrompit et me dévisagea un instant, les yeux hagards. Il secoua imperceptiblement la tête.
Je ne pensais pas que tu y avais survécu. Et encore moins au poison. Aussi n'avons-nous pas voulu donner de faux espoirs à personne. Et après, une fois qu'on t'a sorti de là...
Il secoua la tête plus violemment.
Au premier abord, tu étais dans un état affreux. Ce qu'on t'avait fait, les dégâts, étaient épouvantables. Je ne sais pas ce qui a pris patience de nettoyer et de panser les blessures d'un cadavre, mais autrement... Et puis, plus tard, tu n'étais plus toi-même. Les premières semaines, j'étais malade de ce que nous avions fait. Nous avions mis l'âme d'un loup dans le corps d'un homme. Voilà ce que je pensais.
Il me regarda de nouveau, et une expression incrédule passa sur ses traits à ce souvenir.
Tu m'as sauté à la gorge. Le premier jour où tu as réussi à te tenir debout tout seul, tu as essayé de t'enfuir. Je t'en ai empêché, et tu m'as sauté à la gorge. Je ne pouvais pas montrer à Patience la créature qui grondait et mordait que tu étais devenue, et encore moins.
« Crois-tu que Molly ?» fis-je. Burick détourna les yeux.
« Elle a sans doute appris que tu étais mort. »
Un silence, puis mal à l'aise.
« Quelqu'un avait fait brûler une bougie sur ta tombe. On avait dégagé la neige, et il restait le moignon de cire quand je suis venu te déterrer. »
Comme un chien déterre un os.
J'avais peur que tu ne comprennes pas.
Je n'ai pas compris. J'ai cru œil de nuit sur parole. C'est tout. J'étais arrivé à la limite de ce que je pouvais supporter de me rappeler, ce jour-là, et j'aurais voulu abandonner la conversation, mais Burick s'acharna.
Si tu reparais à Castelserre, ou à Bourg de Castelserre, on te tuera. On te pendra au-dessus de l'eau, et on brûlera ton cadavre. Ou bien, on le démembrera. En tout cas, les gens veilleront à ce que tu sois mort pour de bon, et que tu le restes, cette fois.
Il me détestait donc tant?
Te détester? Non. Il t'aimait bien. Ceux qui te connaissaient, en tout cas. Mais si tu revenais parmi eux, alors que tu es mort et enterré, ils auraient peur de toi. Et pas question d'expliquer ton décès par un tour de passe-passe. La magie du vif est mal vue. Lorsqu'on en accuse un homme, puis qu'il meurt et qu'on l'inhume, mieux vaut qu'il reste dans son trou s'il veut laisser un bon souvenir. Si on te voyait te promener dans la rue, on y verrait la preuve que Royal avait raison, que tu t'as donné à la magie des bêtes et que tu t'en es servi pour tuer le roi. Il faudrait à nouveau t'exécuter, et plus soigneusement cette fois-ci.
Burick se leva brusquement et fit deux allers-retours d'un mur à l'autre.
« Crénom d'un nom, je pourrais bien quelque chose, » dit-il.
« Moi aussi, » murmurai-je.
10 jours plus tard, Ambre apparut sur le chemin qui menait chez nous. Le vieil assassin marchait à pas lents, un bâton à la main, son paquetage haut perché sur ses épaules. La journée était chaude et il avait rejeté en arrière le capuchon de son manteau. Le vent faisait danser ses longs cheveux gris et il s'était laissé pousser la barbe pour dissimuler ses traits. Au premier coup d'œil, on l'aurait pris pour un vieux rémouleur itinérant, au visage marqué de cicatrices, mais plus pour le grêler. Le vent et le soleil avaient halé son teint. Burick était à la pêche, activité qu'il préférait pratiquer seul, et en son absence, Œil de Nuit était venu lézarder sur notre seuil. Mais dès qu'il avait humé l'odeur d'ambre, il s'était éclipsé dans les bois derrière la hutte. J'étais seul. J'observais Ambre pendant qu'il approchait. L'hiver l'avait vieilli, accentuant ses rides et le gris de ses cheveux, mais il se déplaçait avec plus de vigueur que je ne m'en souvenais, comme si les privations l'avaient endurci. Enfin, je me portais à sa rencontre avec un curieux sentiment de timidité et de gêne. Quand il leva les yeux et m'aperçut, il s'arrêta sur la piste. Je continuai jusqu'à lui.
« Mon garçon ?»
fit-il d'un ton circonspect quand je fus auprès de lui. Je dus faire un effort pour acquiescer en souriant. Le sourire, qui illumina soudain son visage, me mortifia. Il lâcha son bâton pour me prendre dans ses bras, puis il appuya sa joue contre la mienne, comme si j'étais encore un enfant.
« Oh, Fitz, Fitz, mon garçon !»
s'exclama-t'il d'une voix empreinte de soulagement.
« Je te croyais perdu. J'avais peur que nous ne t'ayons infligé un sort pire que la mort. »
Ses bras secs et forts m'étreignaient. J'eus pitié du vieil homme. Je ne lui dis pas que c'était le cas.